Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Et puis en parallèle, on regarde un peu la saison des ouragans qui va jusqu'à la fin du mois de novembre. Grosso modo, c'est de juin à novembre. Et là, c'est la tempête tropicale Idalia qui prend du tonus et se dirige, après avoir fait un certain nombre de ravages du côté de Cuba, vers les côtes de la Floride, prend de la vitesse et également de la vitalité dans le golfe du Mexique, en raison principalement de la mer qui est chaude, de l'eau qui est degré très élevé, 31 degrés, ce qui est absolument inhabituel. Et ça risque de devenir un ouragan majeur sur les côtes de la Floride. Alors, la conséquence de ça, bien sûr, des mesures d'urgence, des gens qui sont évacués. Le gouverneur Ron DeSantis qui a dit préparer un départ rapide, ça veut dire déjà stocker votre véhicule si jamais vous devez quitter. Et on pense que dès mercredi, il pourrait y avoir un certain nombre d'enjeux, notamment dans le secteur de Tampa. Alors, voilà pour ce qui est de cette tempête Idalia qui prend de la vigueur. Et il y a aussi l'ouragan Franklin, qui est aussi un ouragan important, catégorie 4, qui est dans l'Atlantique et qui va passer assez loin des Bermudes, mais quand même, c'est un parcours qui est quand même assez puissant et violent. Parlons de l'incendie dans le Vieux-Montréal et on va essayer de rester sur les faits parce que depuis hier, j'entends beaucoup de commentaires puis également, j'ai reçu pas mal de courriels, mais je résume. Qu'est-ce qu'on sait? On sait d'abord que c'est un incendie qui est d'origine criminelle. Ça ne fait aucun doute. La police a trouvé des traces d'accélérant et il y aurait donc au moins un foyer d'incendie. Ce qu'on croit comprendre, c'était à l'avant de l'immeuble. Donc, 7 personnes ont perdu la vie. Ça devient potentiellement 7 meurtres. Et également des gens qui ont été blessés. La police n'a pas partagé, c'est normal, des informations sur des suspects potentiels. Qui a mis le feu? 1, 2, 3, plusieurs personnes. Pourquoi on a mis le feu dans cet immeuble? Pour se venger? Des gens qui sont malades, c'était ciblé, c'était au hasard. Pas de réponse à vous donner, évidemment, à ce stade-ci. Mais je dois avouer que j'ai un peu sursauté quand j'ai entendu l'avocat du propriétaire de cet immeuble. Maître Bergevin, le propriétaire est aussi un avocat, là, Émile Benamor, qui a dit, ben, ça prouve que mon client n'a rien à voir là-dedans, puis ça prouve qu'il y a eu du délire médiatique, puis que l'affaire est donc... Bien différent. Je comprends que Maître Bergevin est un avocat qui a le mandat de défendre son client. Mais je veux juste rappeler que la seule information confirmée, c'est qu'il y a eu un incendie criminel. Moi, je ne sais toujours pas dans quel état se trouvait l'immeuble. Je ne sais toujours pas si des sorties d'urgence étaient accessibles ou non. Je sais toujours pas s'il y a des gens qui ont été coincés en raison de la configuration des lieux à l'intérieur d'un logement, pas de fenêtre. Pourquoi c'était comme ça? Je ne sais pas. Alors, je comprends les proches de gens qui ont été tués ou qui ont été blessés dans ce terrible incendie, mais la question demeure. Puis il y en a plusieurs questions là. Un, qui a mis le feu? Deux, pourquoi on a mis le feu? Et pourquoi il y a des gens qui sont restés coincés? Parce qu'il y a eu de la négligence. Maître Benamor a expliqué qu'il faisait régulièrement la tournée des lieux tous les jours pour s'assurer que c'était correct, qu'il n'y avait pas de par exemple, d'escalier bloqué. Autrement dit, il faisait son travail de bon propriétaire du lundi au vendredi. Très bien. Est-ce que l'enquête va nous permettre de confirmer ça ou pas? Alors, c'est un élément important, mais ça ne répond pas, évidemment, à l'ensemble des questions. Toujours, si on reste dans l'univers policier, je regardais ce matin et c'est un élément, là, mais qui traduit la mentalité des gangs de rue. C'est la semaine dernière, on parlait de coups de feu avec des enfants qui étaient à l'intérieur d'une voiture, puis que les deux voitures, voiture des suspects puis voiture de la victime, se sont retrouvées à moins de 2 kilomètres plus loin, comme si on essayait de se rattraper. Je rappelle qu'il y a des enfants à bord. Là, vous avez un Lavallois qui a été arrêté par la police de Longueuil. Transaction de drogue. Il se trouvait dans son auto, puis on a localisé dans le véhicule 2 kilos de cocaïne, de l'héroïne, du fentanyl, 2 armes à feu, puis un bébé. Le Journal de Montréal qui nous raconte ça ce matin. C'est donc un gars armé avec des quantités de stupéfiants, là. Et comme a dit la juge dans le dossier, la juge Morin, vous n'avez pas transporté 1 gramme de marijuana, quelqu'un aurait pu avoir envie de tout voler et tirer sur l'auto. Je veux dire, comment t'expliques que des gens se promènent avec des enfants dans des véhicules qui peuvent être ciblés? On le voit encore, là, des coups de feu sur une maison hier soir dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est complètement aberrant. Et puis l'autre élément dont on va discuter ce matin, c'est le phénomène de l'extorsion, sextorsion. Les chiffres ont été rendus publics par le SPVM. Il y a une hausse importante des cas, puis c'est une sortie alors que c'est la rentrée scolaire. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le pourcentage de victimes chez les gars. On a beaucoup l'impression que les filles se font recruter, tombent dans le piège de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de leur âge ou qui veut les aider à avoir une carrière, par exemple, de mannequin, etc. Là, ce qu'on voit, ce sont des ados qui se font séduire par des personnes qui se font passer pour des filles, qui engagent une relation, qui prennent leur temps, établissent un lien de confiance, et ça se termine par des photos nues que des jeunes prennent puis partagent. Puis après ça, ben le chantage arrive puis les menaces. Et quand on a fait le documentaire sur les cyberprédateurs, les collectionneurs d'enfants, on a travaillé avec ces policiers et ces policières sur justement à quel point c'était peut-être platement facile de faire tomber dans un filet des jeunes qui ont des égos ou aussi qui ont un manque de confiance. Tiens, une fille s'intéresse à moi, puis j'embarque là-dedans, puis c'est sûr que c'est une histoire d'amour qui est en train de se préparer. Alors, on va parler avec le responsable de l'unité là, qui s'occupe justement des abus sexuels chez les jeunes, Marco Breton, qui travaille au SPVM. Mais quand même, là, en termes d'extorsion, c'est spectaculaire comme augmentation. Et puis, juste pour vous donner le dernier volet d'enquête ce matin, on apprend dans The Gazette que la GRC est convaincue que des cybercriminels de Russie et d'Iran menacent la sécurité du Canada. Il y a déjà des attaques, que ce soit des logiciels malicieux qui sont installés, des tentatives pour avoir accès à des informations. Vous avez également des cas de rançon qui sont demandés. Je regardais les chiffres qu'on peut lire ce matin dans le Globe and Mail. En 2022, il y a eu des cas de fraude en ligne. Ça, c'est rapporté, parce qu'il y en a eu d'autres qui sont pas rapportés. 70 878 cas de fraude. Et au total, c'est 530 millions de volés. Et les policiers de la GRC pensent, puis d'autres organismes spécialisés sur les cyberattaques, que des groupes situés en Russie, avec la complicité des services de renseignement russes, et d'autres groupes en Iran vont se livrer à des attaques sur des entreprises situées au Canada, aux États-Unis, bref, des pays qui sont ciblés à des fins géopolitiques, et on donne la bénédiction à tous ces pirates pour lancer des attaques. Alors, ce sera à suivre. Parlons de la rentrée scolaire quand même. On voit qu'on retrouve les professeurs. C'est un peu ce qu'on disait hier, là. Toujours assez étonnant de constater le calendrier de recrutement là, puis tous les obstacles bureaucratiques. T'sais, on a trouvé 7000 personnes en une semaine. Pas tout à fait ça, là. Mais donc, à Montréal, la majorité des profs ont maintenant été recrutés. Il y a encore des enjeux pour les services de garde. Il y a encore des enjeux pour le transport scolaire. Puis je parle pas des conflits de travail. Mais il y a encore donc des postes qui ne sont pas comblés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, qui est importante de savoir ce matin, c'est dans la presse où on découvre qu'après la pandémie, le ministère de l'Éducation a décidé de se montrer maintenant plus sévère. Rappelons que en raison de la pandémie, l'enseignement à distance, les périodes d'ajustement, les enfants qui ont été malades puis qui ont manqué des cours, on avait allégé, dit la presse, les programmes et donné aux profs la liste des enseignements prioritaires. Voici en gros là, ce que les jeunes doivent comprendre et connaître cette année. Au plus, ils ont eu 3/4 de la matière. Ça veut dire qu'il y a 25% de la matière qui n'a jamais été enseignée. Et on a donc ajusté les examens ou les épreuves ministérielles. Puis on a aussi ajusté les bulletins. Tout ça pour s'assurer que ça soit pas un naufrage en éducation parce qu'on n'avait pas la capacité d'enseigner tout ce qui était prévu. Eh bien là, c'est terminé. C'est le retour à la normale. Et ça veut dire qu'il faut enseigner toute la matière, que les examens vont couvrir tout le terrain et que le poids des examens du ministère seront plus importants. Rappelons-nous l'enjeu des échecs là pour le cours d'histoire secondaire 4, où il y a eu un taux d'échec très élevé. Et là, pour 4e et 5e secondaire, on sait que c'est important, là. Ben il y a beaucoup d'élèves qui commencent à stresser en disant « mais ça, j'ai pas vu ça, puis là, ça va être comment cette année? » Il y a une certaine angoisse, puis il y a des experts qui considèrent que le ministère de l'Éducation, au lieu de contrôler chacun des élèves, devrait avoir comme mandat de regarder l'ensemble de ce qui est enseigné dans les écoles, puis est-ce que c'est correct, puis est-ce que c'est bien fait, puis peut-être pas accorder tant d'importance aux examens de fin d'année. Alors, c'est un débat, puis on va y revenir ce matin. Deux notes en éducation, en fait, pour parler des jeunes, là, les ados de 14 à 16 ans, à partir de vendredi, devront se limiter à 17 heures de travail par semaine. Et on sait, ce sont les nouvelles dispositions adoptées par le ministère du Travail. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, 14 ans, faut pas dépasser ça. Puis là, je sais qu'il y a bien des jeunes qui sont furieux en disant « Ouais, mais on peut travailler le vendredi soir, le samedi, le dimanche, mais on va dépasser le 17 heures peut-être. » Il y a des employeurs qui sont pas satisfaits. Il y a des exceptions, notamment pour les jeunes de moins de 14 ans qui vont garder des enfants, qui vont travailler dans l'entreprise familiale. Mais c'est un changement quand même majeur. Tout ça, il y a comme deux objectifs. D'abord, on avait noté une hausse du nombre d'accidents de travail chez les plus jeunes. Et deux, on pense que c'est important de se consacrer aux études. Puis que pour ça, il faut pas travailler nécessairement trop. Mais je sais, là, pour avoir eu beaucoup de vos messages, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Et puis, coup d'œil vers la France, où le ministre de l'Éducation a annoncé dimanche l'interdiction de ce qu'on appelle des robes longues dans les salles de cours pour les profs. Sous-entendre les abayas, qui sont des vêtements, espèce de connotation religieuse. Certains disent que non, mais c'est interprété comme une forme, disons, d'un certain radicalisme, ou en tout cas d'une façon ostentatoire de montrer sa religion. Et là, vous savez qu'en France, la laïcité s'est implantée depuis quoi? 2004. Et là, on remarque le retour de certains signes religieux, symboles, vêtements, dans les classes. Alors là, vous comprendrez qu'on est reparti en débat sur la laïcité en France. Est-ce que le gouvernement va trop loin? Qu'est-ce que ça fout que quelqu'un porte une robe longue comme ça dans une salle de cours, alors que le ministre dit non, il faut réaffirmer les principes. Maintenant, je veux vous parler un peu de la santé, parce que d'abord, on a des chiffres concernant l'espérance de vie. Et on remarque que l'espérance de vie augmente au Québec, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, ailleurs au Canada, c'est pas du tout la même chose. On meurt plus jeune au Canada, mais au Québec, l'espérance de vie, c'est autour de 83 ans. Et c'est un peu supérieur à ce qu'on a connu durant la période de la pandémie. Et ce sont autant les hommes que les femmes. On sait que les femmes, historiquement, ont toujours vécu plus longtemps. Mais là, il semble que les hommes, pour toutes sortes de raisons, ont vu aussi leur espérance de vie augmenter. Premier élément. Le deuxième, notre réseau de la santé et le privé. Deux nouvelles ce matin. D'abord, Radio-Canada nous dit qu'il y a des contrats d'une valeur record d'1,5 milliard seront accordés à des cliniques privées dans le cadre d'appels d'offres. Tout ça pour envoyer au privé, notamment des chirurgies. C'est pas nouveau, là, on le sait, depuis la pandémie, on fait affaire avec des centres spécialisés pour des chirurgies d'un jour. Et la liste d'attente est longue. Selon les chiffres de Radio-Canada, on a l'intention de confier au privé 600 000 interventions médicales pour les 5 prochaines années. Dans certains cas, ce sont des contrats de 3 ans, là, mais ça représente 1,5 million. Et là, je sais que à chaque fois qu'on parle de ça, c'est le scandale, puis pourquoi le privé? Je rappelle le principe, le patient ne paye pas un sou. Et si vous êtes sur une liste d'attente et que votre médecin ne peut pas vous opérer dans le cadre du réseau public parce qu'il n'y a pas de temps opératoire, parce qu'il n'y a pas de salle, parce qu'il n'y a pas de personnel, et qu'on l'envoie opérer à Rockland MD ou ailleurs au 10-30, ça change quoi dans la vie? Ma préoccupation, puis votre préoccupation, c'est de vous faire soigner puis d'être opéré par des gens qualifiés dans un cadre professionnel. Et si l'État n'est pas capable de me donner le service dans un hôpital, puis dans d'autres pays, là, on le voit, cette collaboration qui existe, cohabitation entre le privé et le public. Et ça, ça se fait au profit du patient. Quand on dit que le patient est au cœur des préoccupations, ça devrait être ça. Mais là, je le sais à chaque fois, c'est le privé, c'est épouvantable. Il y a des profits, on va rentrer la VG là-dedans pour être sûr qu'ils font pas d'argent, puis c'est effrayant. Puis je parlerai pas de certains exercices de comptabilité, parfois un peu créatifs. Mais je pense qu'on le voit là, il y a une liste d'attente qui est majeure, et dans certains cas, je pense à des chirurgiens en orthopédie, c'est interminable. Et c'est la qualité de vie des gens qui sont en attente qui est en cause. On peut faire tous les débats théoriques et sémantiques, là, mais ça change pas le fait qu'il y a des milliers de Québécois qui attendent sur des listes d'attente. Puis dans le Journal de Montréal, on nous parle du recours aux agences privées. Je rappelle que c'est supposé disparaître graduellement à partir, je pense, c'est quoi, l'an prochain, parce qu'il y a des agences qui ont abusé. Mais le point, si on veut, de chute de tout ça, c'est la capacité du réseau de la santé d'embaucher du personnel, d'attirer des gens, des infirmières, des préposés. Je voyais hier, je pense, un reportage à TVA sur une formation plus rapide. Tant mieux, si on peut rendre le réseau attrayant. Parce qu'on sait une chose, l'accès est parfois compliqué, difficile. Quand on passe la barrière, à l'intérieur, les soins sont de qualité. Et on veut juste s'assurer que quand on donne des contrats au privé, il y a des critères de qualité dans le choix et que le patient soit traité le plus rapidement possible. Je pense que c'est ça. Le reste, on peut faire tous les débats philosophiques, puis je sais, il va y avoir des lettres d'opinion, puis des lettres ouvertes, puis des commentaires, puis faut pas. Puis je sais que la mentalité des fonfons au mammouth, c'est pas faire trop de place au privé. Mais si t'es pas capable de me faire de la place dans ton hôpital, peux-tu me faire de la place ailleurs? Si c'est vrai ce que tu prétends, fonfon, que la priorité, c'est le patient. C'est pas toujours le cas dans les faits.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Il y a au moins une chose qui est confirmée, c'est que l'incendie dans le Vieux-Montréal qui a coûté la vie à 7 personnes, ajoutons 9 autres personnes blessées, est un incendie criminel. C'est la certitude que nous avons, ça a été confirmé par le SPVM hier en début de journée. David Shane est l'inspecteur responsable des communications, il est avec nous ce matin. Monsieur Shane, bonjour.
Bonjour Monsieur Arcand.
D'abord, comment vous êtes arrivé à cette conclusion que l'incendie est de nature criminelle?
Une enquête en matière d'incendie criminel, c'est une enquête qui est très complexe, qui suit quasiment des principes scientifiques. On fonctionne dans un environnement qui est détruit, dans des décombres, et on procède beaucoup par élimination des différentes hypothèses. Alors, par exemple, en matière d'incendie accidentel, il y a différentes causes possibles, électriques, structures, feux de cuisson, articles de fumeur, par exemple. Et les enquêteurs travaillent de façon très, très méthodique à éliminer ces causes-là. Par exemple, on a eu cet été le rapport de ingénieur électrique qui est passé sur la scène. Et basé sur ces constats, les enquêteurs ont été en mesure d'éliminer complètement cette
cause-là. Même si la structure est complètement détruite, même s'il y a des décombres partout, l'ingénieur est capable de dire le point de départ, c'est pas un problème électrique.
Ah, oui, exactement, M. Arcand, c'est ça. L'analyse qui est faite à partir des panneaux, le réseau électrique, là, évidemment, là, c'est son expertise. Je suis pas un expert en électricité.
Non, je comprends.
Mais disons, la méthodologie qui est utilisée par les enquêteurs en incendie criminel, elle est scientifique et ils procèdent par élimination. Mais également, on a localisé ce qu'on appellera une zone où l'incendie a débuté. Et à cet endroit-là, on a fait des prélèvements. Et les chimistes du laboratoire de sciences judiciaires de médecine légale ont confirmé la présence d'accélérants. Donc, ces éléments-là ensemble nous ont permis de conclure qu'on écartait définitivement la cause accidentelle et que maintenant, on est vraiment à 100% dans une enquête qui est criminelle.
Quand vous dites de l'accélérant, c'est de l'essence?
Ça peut être de l'essence, ça peut être différents produits. À cette étape-ci, on ne veut pas aller trop loin dans les détails. On veut se donner de la marge de manœuvre pour que les enquêteurs puissent avancer l'enquête.
Puis est-ce que vous avez trouvé ça dans le secteur de l'entrée de l'immeuble, ce que j'ai lu ce matin, là?
Ouais, c'est ça. Il y a différentes hypothèses avancées. Évidemment, pour pas nuire à l'enquête, M. Arcand, je pourrais pas aller dans des détails plus pointus. Cependant, ce qu'on voulait à la fois pour les familles, parce que c'est une grande préoccupation pour nos enquêteurs, pour les familles, mais aussi pour le public, on voulait quand même aller assez loin dans les détails pour que les gens comprennent qu'il y a pas de hasard dans ça. C'est très scientifique et on voulait donner quand même des raisons un peu plus poussées là, pourquoi on écartait la cause accidentelle.
OK. Plusieurs foyers d'incendie ou pas?
Je peux pas aller okay, dans
non,
ce
mais moi, je vous pose des questions, puis vous me répondez ce que vous pouvez me répondre.
Aucun problème.
OK. L'autre chose, c'est une enquête criminelle pour meurtre.
C'est une enquête criminelle, M. Arcand. Comme on disait, dans le fond, une enquête comme ça pour incendie, surtout de cette ampleur-là, dès le départ, on a jumelé des enquêteurs des crimes majeurs avec nos enquêteurs spécialisés en incendie criminel parce qu'on a abordé la question de façon très large. Là, maintenant, vous savez qu'en date de hier, on écarte la cause accidentelle et on se concentre sur le volet criminel. Donc, on a des enquêteurs qui ont travaillé ensemble depuis le début. Et maintenant, malgré qu'on écarte une grande partie des différentes hypothèses, en matière criminelle, il y a quand même plusieurs possibilités. Dans le code criminel, il y a plusieurs infractions qui touchent les incendies et toutes ces options-là sont encore sur la table.
Mais il y a différentes motivations qui amènent quelqu'un à poser des gestes comme ça, là, à allumer un incendie.
Oui.
Ça peut être la vengeance, ça peut être par hasard quelqu'un qui, bon, a un problème, ça peut être une personne, ça peut être deux ou trois personnes, là. Vous n'avez pas identifié de motivation et vous n'avez pas identifié le nombre de personnes.
Ben en fait, encore une fois, je veux pas aller dans trop de détails parce qu'aujourd'hui, je veux pas confirmer ou infirmer parce que de dire qu'on a un suspect ou on n'a pas, ben les gens à l'origine de ça pourraient être éveillés un peu à nos prochains.
Mais vous demandez la collaboration du public. Comment oui. Mes auditeurs peuvent vous aider s'ils n'ont pas un peu plus de détails?
Ben en fait, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils ont vu des choses le soir de la nuit de l'événement, s'ils ont vu des individus au comportement louche autour de l'immeuble, s'ils ont entendu des gens se targuer d'avoir eu un rôle à jouer ou donner des informations, à ce moment-là, les gens savent que ça concerne cet incendie du Vieux-Montréal. On leur demande de venir de l'avant, d'appeler Infocrime 393-1133 ou contacter le poste de police local.
Avez-vous des caméras de surveillance?
Il y a toujours des caméras de nos jours, M. Arcand, dans toutes nos enquêtes. Il y a effectivement des images à différents moments.
Qui viennent un peu confirmer aussi cette théorie. Pas cette théorie, là, mais c'est cette conclusion que c'est une...
Ben, je vous dirais encore une fois, sans vouloir aller dans le détail, il y a des images, il y a des accélérants qui ont été trouvés, il y a les témoignages des différentes personnes qui ont été impliquées, qu'ils soient victimes ou non. Alors, l'enquête, c'est vaste, toutes les démarches d'enquête qu'on peut faire et on va tout mettre les moyens en œuvre pour obtenir toutes les réponses pour les familles puis pour honorer la mémoire des victimes qui sont décédées.
Là, je veux pas présumer, mais quand la police sort en disant « voici notre conclusion, c'est de nature criminelle », ça fait partie d'une stratégie d'enquête aussi. Vous n'êtes pas sorti hier par hasard en disant, bon, on va rendre l'information publique.
Bien, c'est important pour nous, à cette étape-ci, de donner un topo d'où est-ce qu'on est rendu. Je pense qu'on le doit aux victimes, on le doit à leur famille également. Donc, c'est principalement ça qui nous a motivés. On était au point de l'enquête où on était capable à 100% de dire que c'était pas accidentel. Alors, on a souhaité le dire. D'ailleurs, avant de sortir en point de presse, on a pris la précaution d'appeler chacune chacune des familles des victimes décédées une par une pour leur dire. Parce que cette annonce-là, elle est positive. Hein? Dans le fond, ça veut dire que la police a jamais abandonné. On a toujours poursuivi le dossier. Mais on sait que de rebrasser ces nouvelles-là, ça va faire vivre des émotions négatives par les familles. Je vous entendais ce matin dire que c'était la fête d'une des victimes aujourd'hui. Alors, vous comprenez, on est très conscient de ça. Mais on pense qu'on le doit à ces familles, on le doit à la mémoire de ces victimes-là, de leur donner un topo d'où est-ce qu'on est rendu.
C'est l'enquête pour la cause de l'incendie dont vous parlez. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, et c'est ce que les familles des victimes disent. Que ce soit accidentel ou criminel, on comprend que ce sont des gens en jeu différents, mais en demeure pas moins qu'il y a des gens dont on a l'impression qu'ils sont demeurés coincés, emprisonnés dans l'immeuble. Est-ce qu'il y a une enquête en cours sur un autre front, comme par exemple la négligence criminelle?
Je vous dirais, M. Arcan, encore une fois, il m'est pas permis de par la loi d'aller dans les orientations spécifiques de l'enquête, mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces hypothèses sont sur la table. Il n'y a rien qui est écarté en matière criminelle. Alors, quand on regarde le code criminel, les différents, je suis sans être avocat, là, mais les différentes infractions qui touchent les incendies criminels, que ce soit d'avoir mis le feu, que ce soit homicide, que ce soit négligence, toutes ces infractions-là sont à l'étude en ce moment et les enquêteurs vont poursuivre le travail d'enquête jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion.
OK, mettons qu'on regarde pas ça sous l'angle juridique. Puis, je vais regarder ça dans l'angle des familles des victimes, des proches là, qui ont perdu quelqu'un ou que quelqu'un a été blessé. Moi, ce que je veux savoir carrément, là, est-ce qu'on regarde dans quelles circonstances ces gens-là sont décédés? Est-ce qu'on regarde quel était l'état de l'immeuble? Est-ce que les sorties de secours étaient accessibles? Est-ce qu'on pouvait... On comprend qu'il y avait un incendie allumé par quelqu'un, mais est-ce qu'il y a une enquête sur l'état de la bâtisse au moment de l'incendie?
Mais tout ça fait partie de l'enquête, M. Arcan, l'enquête de la police, mais n'oublions pas qu'il y a une enquête de la coroner chargée du dossier également. Alors, en ce moment, étant donné qu'on est vraiment, on bascule, dans le fond, à 100% dans une enquête criminelle, de par la loi sur le coroner doit mettre en suspens son enquête en attendant de voir s'il va avoir un processus judiciaire et par la suite reprendre. Donc, elle diffère la rédaction de son rapport final, mais elle aussi, elle va avoir des conclusions à tirer. Donc, à la fin de tout ça, on sait qu'on va être capable de donner le portrait juste pour les familles et pour la postérité, dans le fond, éviter que ces événements-là se reproduisent.
Parce que, on le disait tantôt, là, c'est 7 personnes qui ont perdu la vie, 9 blessés, et on parlait des proches. La seule certitude qu'on a ce matin, c'est que c'est d'origine criminelle. Point.
Oui, vous avez raison. Donc, on a écarté toute cause potentielle accidentelle, ce qui veut dire qu'on est à 100% dans des causes criminelles. Et dans ces, puis là, c'est
ça veut dire
avancée,
qu'il y a quelqu'un quelque part, un ou plusieurs personnes là, qui a mis le feu volontairement à cet immeuble.
Oui, M. Arcan.
Les gens qui vous écoutent ce matin, puis qui ont peut-être vu quelque chose, qui ont un élément. Ils communiquent comment pour vous transmettre l'information?
Ça peut être via leur poste de quartier. S'ils sont à l'extérieur de l'île de Montréal, n'importe quel corps de police va recevoir cette information-là. Ils peuvent appeler le 911 carrément. Ils peuvent aussi contacter de façon confidentielle et anonyme InfoCrime 514-393-1133 ou via le web, donc infocrimemontréal.ca. S'il vous plaît, contactez-nous. Il n'y a pas d'informations trop petites. Tout peut servir et vous avez peut-être le chaînon manquant pour tirer de la conclusion sur ce qui est arrivé.
Je voyais dans un papier de la presse ce matin de Daniel Renault qu'il y avait eu un incendie, je pense que c'est 2012, criminel aussi, où les gens n'ont pas été retrouvés. Il n'y a pas eu d'arrestation dans le dossier. Quelle est la probabilité de trouver là où les responsables dans un cas d'incendie criminel?
Ben, je vous dirais, il n'y a pas de pourcentage là, que je peux vous donner, M. Arcan, pour avoir moi-même travaillé là pendant 3 ans à l'époque où j'étais aux enquêtes. Ça diffère beaucoup. Ça dépend. Chaque cas est un cas d'espèce. Nos enquêteurs...
Vous avez travaillé aux incendies criminels?
Oui, j'étais là 3 ans comme lieutenant détective de 2010 à 2013. Donc,
c'est quoi le profil des gens qui mettent le feu à partir de votre expérience?
Ben, c'est un peu comme ce que vous avez dit tantôt. Moi, la façon que je vous le conceptualiserais, c'est que le feu, c'est une arme. C'est un outil dans un mobile. Donc, vous avez parlé de vengeance, ça peut être des fraudes d'assurance, ça peut être des problèmes de cœur, de la violence conjugale, ça peut être lié au crime organisé. Mais le feu, c'est un outil comme une arme à feu, M. Arcan. Puis le problème, c'est que le feu tue de façon indiscriminée les gens. Alors, le feu, une fois qu'il est parti, on peut pas le contrôler et ça peut coûter la vie à des gens comme vous et moi. Là. C'est pas toujours juste des criminels qui sont visés.
Diriez-vous que erreur sur l'immeuble ou quelqu'un qui a un problème de santé mentale qui met le feu c'est marginal par rapport à quelqu'un qui a un intérêt, là, qui a un motif pour le faire.
J'ai pas de statistiques à l'appui. Non, mais clairement que la santé mentale joue un rôle. Il faut voir que, par exemple, notre section des incendies criminels à Montréal, elle est unique. Pourquoi? Parce que nos enquêteurs travaillent à temps plein dans ce domaine-là. Donc, il y a des experts dans d'autres corps de police, mais chez nous, ils travaillent à temps plein. Ils mènent environ 500 dossiers par année, des dossiers actifs, j'entends. Et ils couvrent environ une douzaine de cas de décès. Il y a toutes sortes d'intensités, là. Alors, évidemment, ce qu'on a vécu dans Vieux-Montréal, ça, c'est la catastrophe, c'est la tragédie ultime. Mais à plus basse échelle, il y a des feux de matelas dans les ruelles. Il y a des feux vraiment mineurs. Et la santé mentale joue effectivement pour beaucoup dans certains de ces feux-là.
Mais ce que je veux dire, c'est que dans un immeuble, dans le cas d'un immeuble comme celui-là, là, quelqu'un qui veut mettre le feu parce qu'il y a un problème puis qu'il n'y a pas d'intention autre va souvent mettre le feu, vous le dites, dans la ruelle à côté. Les dommages vont être limités. Mais si j'ai ciblé l'entrée principale, c'est que je vais empêcher les gens de sortir.
Ça peut être ça. Là, on parle hypothétiquement parce qu'il ne faut pas parler de ce dossier-là.
Mettons que j'aurais mis le feu.
Mais c'est clair que l'usage d'accélérants traduit un peu plus...
Une volonté criminelle.
Parfois, en santé mentale, ça va être une flamme nue qui va être utilisée, par exemple, une flamme nue sur un matelas ou sur un détritus dans une ruelle. Puis là, ce feu-là va se propager, par exemple, à un immeuble. Ou quelqu'un va mettre le feu dans son appartement. Et là, ça va se propager. Quand on a affaire à des engins incendiaires, ce qu'on appelle des cocktails Molotov ou des déversements d'accélérants, là, habituellement, on est ailleurs.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça me fait plaisir.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Les formes d'arnaque, d'extorsion existent depuis toujours. Évidemment, avec les outils technologiques, c'est possible de les multiplier. Je vois ce matin le rapport de la GRC et d'organismes contre les cyberattaques qui pointent les Russes, les Iraniens, en disant qu'ils sont en train de cibler, encore une fois, des entreprises. Il y a eu 70 000 attaques au Canada en 2022. C'est à peu près 500 000 000 de pertes. Donc, on le sait, des logiciels malveillants, malicieux, des tentatives aussi d'obtenir des rançons en bloquant, par exemple, les transactions dans une entreprise. Il y a un autre volet qui nous touche peut-être encore plus directement. Ce sont ces opérations de sextorsion auprès principalement des jeunes. Pas que des jeunes, là. J'ai vu des cas impliquant des adultes dans le passé. Mais on va faire le point ce matin avec Marco Breton, qui est le commandant de la section exploitation sexuelle et moralité au SPVM. Monsieur Breton, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Est-ce que je comprends d'abord que le nombre de plaintes augmente?
Oui, en effet, comparativement à l'année passée, on triple pratiquement le nombre de plaintes ou le nombre de dénonciations des victimes à Montréal.
Est-ce qu'il y a une façon de comprendre ça, c'est que les gens sont plus portés à aller vous voir, il y a plus de cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
C'est quand même pas facile à répondre à cette question-là parce que, étant donné qu'il y a quand même un chiffre probablement assez important de dossiers qu'on ne connaît pas, le chiffre noir qu'on pourrait dire, c'est soit que les gens sont plus sensibilisés, les jeunes sont plus au courant et dénoncent plus, où il y a carrément beaucoup plus de dossiers. C'est un ou c'est l'autre, mais c'est deux à vous répondre.
OK. Si vous avez expliqué à quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, ce phénomène, cette approche de sextorsion, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Là, pour que les gens comprennent très bien c'est quoi le phénomène puis comment les gens s'y prennent pour aller comme ça faire chanter des mineurs, des ados.
Mais premièrement, vous avez très bien mis la table. Hein. C'est pas juste en sextorsion, c'est dans différentes criminalités qu'on voit ce phénomène-là. Mais depuis la pandémie, la tendance nationale, on la vit à Montréal aussi, c'est que les jeunes sont beaucoup plus exposés aux réseaux sociaux à chaque jour. Et dans le fond, la sextorsion, c'est que le ou la suspecte se fait passer pour une jeune fille après quelques échanges, quelques conversations avec nos victimes, nos jeunes garçons à Montréal, commence à partager des photos d'elle nue et en demande en échange. Donc, assez rapidement, les victimes de Montréal envoient des photos nues à nature sexuelle aux suspects. Une fois que les suspects possèdent ces photos-là, c'est là que la menace, l'extorsion débute et demande un montant d'argent en échange de ne pas publier ces photos-là à leur réseau d'amis, connaissances, etc. Et malheureusement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les jeunes vont envoyer des sommes d'argent pensant que que tout va arrêter à ce moment-là. Mais malheureusement, vous savez bien comme moi que c'est pas ce qui se passe. Donc, c'est pas parce que les jeunes vont envoyer des sous que ça va arrêter. C'est là que on veut vraiment sensibiliser encore plus nos jeunes à Montréal de ne pas envoyer de photos et de ne pas envoyer d'argent parce que c'est pas la recette-là.
Deux ou trois questions. La première, je vous écoute là, et je comprends que les extorqueurs sont ailleurs qu'à Montréal, ailleurs qu'au Québec et probablement ailleurs qu'au Canada.
Oui, en effet, comme M. Morin mentionnait le cyber-raid, c'est la même chose qu'on vit à Montréal. On ne fait pas exception. La grande majorité de la provenance des suspects, là, donc vous savez, les adresses IP, les techniques d'enquête, les mandats, les ordonnances qu'on va chercher, vont nous démontrer que, en grande partie, ben, la provenance provient d'ailleurs du Canada.
Est-ce que, justement, ça limite votre capacité de neutraliser ces individus puisqu'ils sont ailleurs ou s'il y a des opérations internationales comme on le voit parfois dans des réseaux qui impliquent les pédophiles?
Ben, vous avez raison que ça arrive souvent avec les pédophiles. Mais là, on parle pas de pédophilie,
non,
on parle vraiment de fraude. Donc, c'est pas le même... comment je dirais bien... On a une escouade spécialisée à Montréal, mais c'est pas dans tous les pays qui ont des escouades spécialisées en exploitation sexuelle. Donc là, c'est pour ça que nous, on mise beaucoup, beaucoup sur la prévention pour pas que les jeunes aillent de l'avant avec ces stratagèmes-là, parce que sinon, vous avez raison qu'une fois que on envoie l'information dans un autre pays parce que le ou la suspect s'y retrouve, là, on n'a plus le contrôle de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une dénonciation? Il n'y en aura pas. J'ai jamais, en tout cas, à date, j'ai jamais eu de retour. Donc, est-ce que ça a été positif ou négatif? J'ai jamais eu de retour. Donc, c'est dur de vous répondre.
OK. Il y a quelque chose qui va peut-être surprendre beaucoup de gens dans les données, c'est que on pense toujours que sextorsion, ça veut dire, dans le cas des victimes, des ados, des jeunes filles. Or, ce que vous décrivez, puis ce que je vois de M. Morin, là, du Centre canadien, c'est que la majorité des cas, ce sont des ados, des gars qui sont visés.
Exactement. On parle de pratiquement 9 sur 10. Donc, c'est vraiment c'est l'inverse de ce qu'on a vécu, mettons, en publication d'images intimes ou distribution d'images intimes, où ce que nos victimes étaient principalement des jeunes filles. Là, c'est le contraire. C'est que le stratagème est d'envoyer des photos de jeunes filles à des jeunes garçons. Et l'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est qu'il faut pas oublier que souvent nos jeunes victimes ont des profils ouverts. C'est pas privé. Donc, c'est facile d'y accéder, c'est facile de voir le réseautage, les amis, la famille. Et à partir de là, ben sont encore plus vulnérables d'avoir une distribution de ces images-là qu'ils envoient à leurs connaissances proches, là.
Et c'est facile de personnaliser l'échange aussi. Je connais un tel de tes amis, etc., etc.
Exactement. Exactement, c'est le réseau ouvert qui amène ça.
Qu'est-ce que vous dites à des parents qui vous écoutent ce matin? Il y a un auditeur qui m'a écrit, là, c'est un père qui dit, moi, j'avais tendance à surveiller tout ce que ma fille faisait en me disant, mon gars, il est correct, il n'y aura pas trop. Là, il découvre avec vos données ce matin qu'il a intérêt à jeter un coup d'œil sur l'autre ordinateur, là. Quels sont les moyens, qu'est-ce qu'un parent doit faire, là, tout en respectant, évidemment, la vie privée de son ado, mais pour assurer une surveillance?
Bien, c'est sûr qu'on s'en est déjà parlé, hein, vous et moi, c'est la communication, hein, la communication parent-enfant, l'ouverture. Mais ce qui est un point positif que je vous dirais aujourd'hui, c'est que vous et moi, là, à l'époque, on n'était pas vraiment connaissants en informatique pour surveiller ce que nos enfants faisaient. Mais aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui sont pas si vieux que ça et connaissent beaucoup l'informatique et les réseaux sociaux. Donc, si ils utilisent un petit peu de subterfuge, je suis pas mal sûr qu'ils sont capables. Ils sont pas mal capables de voir ce qui se passe. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Puis il faut vraiment prendre le temps d'en discuter avec eux autres pour pas qu'ils se sentent mal, qu'ils aient pas honte, qu'ils se sentent pas jugés. Parce que c'est vraiment facile pour tout le monde de tomber dans ce piège-là. Puis l'autre chose, c'est que nos jeunes de 14-17 qui ont passé l'été pas dans un camp de jour, pas à travailler, mais seuls à la maison, c'est sûr qu'ils ont été exposés encore plus. Donc, c'est un peu un amalgame de tous ces facteurs-là, là, je vous dirais.
Monsieur Breton, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Et bonne journée à vous.
Au revoir. Marco Breton est commandant de la section exploitation sexuelle et moralité au SPVM. C'est carrément autre chose que de solliciter des jeunes filles pour avoir des photos intimes. Là, c'est carrément une approche qui se veut un mode séduction, mais c'est une arnaque, c'est de l'extorsion. Puis malheureusement, il y a des jeunes, parce qu'ils veulent pas le dire, ils trouvent un moyen de payer pour pas que les photos soient pas diffusées, partagées un peu partout. Mais c'est pas l'approche à faire. Au moins, en tout cas, s'il y a une augmentation des plaintes, c'est sans doute parce qu'il y a plus de cas, mais aussi c'est qu'il y en a qui n'hésitent pas à aller dénoncer. C'est la rentrée scolaire. On a beaucoup parlé, bien sûr, de la course aux professeurs, au personnel de soutien, au personnel de service de garde. Mais la presse nous dit ce matin qu'après, disons, l'allègement consenti durant la pandémie, si je résume, là, avec l'apprentissage à distance, avec tous les obstacles entourant la pandémie et la capacité d'enseigner, Québec avait dit, ben, on va se contenter peut-être d'enseigner 75% du programme, on va accorder moins d'importance à l'examen du ministère. Mais là, la pandémie est finie, c'est le vrai retour en classe qui fait qu'on ramène le volume des matières enseignées à ce qu'il était avant, puis les examens vont compter davantage, ce qui amène beaucoup de réactions ce matin. Et Gilles Royer est là, évidemment, spécialiste des questions d'éducation. Monsieur Royer, bonjour.
Bonjour.
Donc, on comprend que pendant la pandémie, on a levé le pied un peu pour dire, là, il faut s'ajuster, on pourra pas voir tout le programme.
Ah oui, on a levé le pied même beaucoup, et c'était pertinent aussi. Moi, à l'époque, j'ai siégé sur un comité qui rencontrait virtuellement le ministre, comité d'experts avec les présidents des ordres professionnels. Ça, c'était unanime. Il y avait autant la question du niveau d'anxiété des jeunes, perte de temps d'apprentissage, donc il fallait enlever ou par la suite modifier les épreuves ministérielles au niveau de la pondération. Et tenir compte aussi qu'il y avait des apprentissages prioritaires là qui devaient être faits, mais on a élagué dans les programmes. Mais ce qu'on s'est aperçu assez rapidement, dès l'an 1, l'an 2, c'est que les élèves forts étaient demeurés forts, mais que l'écart entre les élèves forts et les élèves faibles avait été en augmentant. Donc, dire présentement que le rythme, maintenir le rythme pré-pandémique ou le rythme pandémique là, serait plus adéquat, là, ce serait vraiment problématique.
Prenons, je sais pas, un programme là de français. Je lisais ce matin que les élèves ont reçu environ là 75% de la matière, les éléments prioritaires ont été identifiés. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont rattraper ce qu'ils n'ont pas eu comme enseignement ou si ça va être un peu comme, je dirais, un enseignement de moins bonne qualité?
Regardez, il y a deux choses. La première, c'est qu'on a, le ministre a déposé, j'ai regardé ça encore ce matin, un genre de plan de valorisation du français à l'école. Et la valorisation du français, ce serait probablement d'appliquer le programme de français intégralement, au minimum, et aussi d'avoir les types d'évaluation qui nous permettent de déterminer dans quelle mesure les objectifs sont atteints. Mais regardez, le problème, si c'est vrai pour l'évaluation et d'autres, c'est que les examens du ministère, on prend uniquement ça, prenez-le en français, ils n'ont pas trois vitesses. C'est le même examen pour tout le monde. Mais notre système, je suis obligé de revenir avec ça, On a un élève sur trois en difficulté dans les écoles publiques québécoises. Donc, quand, surtout dans les milieux urbains, là, où il y a plusieurs écoles privées. Donc, quand vous arrivez à discuter du contenu des programmes, est-ce qu'on maintient l'ensemble de l'atteinte des objectifs, les examens du ministère, quand vous discutez de ça dans un contexte d'école publique, dans un contexte d'école à projet particulier ou privé, on n'est pas dans le même environnement, là.
Je veux comprendre un aspect. Quand on prend cette décision-là, est-ce que vous me dites, là, puis je suis pas sûr que je comprends bien votre message, là. Êtes-vous en train de me dire que si on ramène le niveau d'exigence en termes d'enseignement puis d'examen, les élèves qui sont dans les écoles publiques risquent, pas tous, là, mais que les élèves avec difficulté, disons, vont trouver ça encore plus dur que ce que c'est d'habitude parce qu'ils sont plus en retard et qui vont écoper de ça? Par rapport à ceux qui sont plus talentueux?
Il y a un effet post-pandémie là, qui est plus marqué chez les élèves de milieux défavorisés ou les élèves en difficulté. Non, c'est sûr que quand on va revenir ou si on revient au contexte de la pré-pandémie, on va se retrouver dans un contexte où l'écart de réussite aux tests du ministère ou l'écart de réussite en général entre les écoles publiques, les écoles privées et les écoles publiques à projet particulier, on va revoir ce même écart-là. Là, dépendamment des mesures qui ont été prises pour récupérer des jeunes qui avaient développé des retards durant la pandémie, on risque d'avoir encore, c'est déjà commencé, là, on a vu ça au dernier test de 2022 que j'ai regardé ce matin, on risque encore d'avoir un écart important là par rapport aux résultats, mais particulièrement pour les élèves en difficulté. Écoutez, tout ça pour vous dire que on évalue trop à l'école présentement. Néanmoins, on a besoin d'avoir des épreuves uniques pour nous permettre de savoir où on s'en va comme système éducatif, et être capable de comparer sur la même échelle l'ensemble des jeunes, que ce soit en français ou en mathématiques.
Mais il y a un élément qui est soulevé dans l'article ce matin, puis je veux vous entendre là-dessus, qui est de dire, très bien, faisons passer des épreuves ministérielles, mais arrêtons de les comptabiliser individuellement. Prenons connaissance de l'état des lieux, est-ce que la matière est enseignée, est-ce que les élèves comprennent, mais arrêtons de les pénaliser par des examens.
Il s'agit de voir si on intègre ces résultats-là au bulletin, mais ouais. Néanmoins, pour avoir travaillé beaucoup au collégial depuis 2-3 ans, écoutez, dans l'état actuel des mesures, là, on est à peu près pré-pandémique, même un jeune, tous les jeunes qui arriveront au collégial qu'une moyenne inférieure à 70%, entre 60-70% au secondaire, il n'y en avait que 2/10 qui réussissaient à finir leur collégial là, en 4 ou 5 ans. Donc, c'est avec l'état des mesures actuelles. Donc, il y a une grosse réflexion à faire sur les contenus des programmes, sur les trois vitesses de notre système scolaire et sur le fait qu'un certain nombre de jeunes, même avec des résultats qui apparaissent pertinents, 68-69%, ne sont pas en mesure de réussir au collégial. C'est plus vaste comme tel que simplement de déterminer on allège les programmes ou on cesse de compter les examens du ministère dans le cadre des résultats scolaires de l'élève. Ça va nous prendre une grosse réflexion avec les gens de terrain sur la question directement sur la question de toute l'évaluation en milieu scolaire.
Mais je veux vous entendre sur cet aspect-là parce que il y a beaucoup de parents là, puis même des profs qui me disent ça. Est-ce qu'on a cette tendance à trop mesurer l'apprentissage? Autrement dit, est-ce qu'on fait passer trop d'examens, trop d'épreuves ministérielles? Est-ce que on est toujours en mode évaluation des élèves?
Je pense que oui. Ça semble la perception que j'ai du milieu, quand on regarde un peu l'opinion de la majorité des gens qui travaillent directement dans les écoles, on évalue beaucoup trop par rapport au temps qu'on consacre aux apprentissages. Néanmoins, à temps fixe, que ça peut être en fin d'année, à temps fixe, on a une mesure unique pour déterminer où en sont rendus les apprentissages de nos jeunes. Là, on déterminera si on met cette note-là au bulletin ou pas, mais au moins d'être capable d'avoir une mesure, parce que vous avez des classes. Quand vous avez le tiers de votre classe, là, qui est en retard en français en première secondaire, de toute évidence, vous êtes obligé de rabaisser ou de vous adapter au contexte de classe que vous avez si vous enseignez le français. Si vous enseignez dans une classe où la très grande majorité des jeunes ont un très haut niveau de fonctionnement français, vous adaptez votre enseignement aussi. Donc, pour comparer les deux, pour être en mesure d'avoir la même aune, pour déterminer si les atteintes des objectifs de programme d'études ont été réalisées, c'est là qu'on se retrouve à avoir besoin d'une épreuve unique. Mais qu'en cours d'année, on évalue autant, ça, je suis tout à fait d'accord, entre autres au primaire, il y a trop d'évaluations présentement, ça mériterait et ça va mériter d'avoir une discussion sérieuse et de ramener certaines balises le plus précises et plus vivable.
Merci beaucoup, M. Royer. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Régis de Royer, psychologue et spécialiste de l'éducation. Il est de l'Université Laval. Maintenant, il y a vraiment tout un débat à Québec sur le transport collectif. Le troisième lien, on le sait, est supposément enterré. Il y a un sondage ce matin qui dit qu'à Québec, les gens n'y croient plus, même pas la voie pour le transport collectif. Et il y a l'enjeu du tramway. Il va coûter combien? Puis on est prêt à payer jusqu'à combien? Et quand je dis on, ce sont les contribuables, évidemment, du fédéral, gouvernement du Québec, puis ajouter la ville de Québec. Le maire de Québec, Bruno Marchand, est avec nous. Monsieur Marchand, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, alors, le tramway, là, officiellement, les travaux estimés sont à combien? Actuellement?
Actuellement, on n'a pas le chiffre. Donc, ce qu'on a, c'est la vieille estimation qui avait été transmise il y a plus d'un an, qui était à 4 milliards. On sait, et je l'ai dit, ça va coûter plus que ça, compte tenu du contexte. On le voit dans tous les projets au Québec. Pas juste transport collectif, hôpitaux, ponts, etc. Il y a un contexte qui nous est défavorable et qui fait qu'il gonfle la facture substantiellement.
Si je compare avec d'autres projets d'infrastructure importants, ce sont des hausses de 30, 40, j'ai vu 60 %. Est-ce que vous êtes dans ce parc-là?
Ah ben on fera pas, non, on sera pas différent, c'est sûr. Quand on regarde le pont de l'île aux Tourtes, qui a gonflé une facture qui est passée de mémoire de 1 à 2 milliards, là, ou à peu près approximativement, je suis pas en train de dire qu'on va doubler, mais je suis en train de dire qu'on fait pas... On fait pas bande à part, là. C'est les mêmes matériaux, c'est la même volatilité, c'est la même volatilité des taux d'intérêt, c'est la hausse des coûts de main-d'œuvre. Alors, nécessairement, on a des consortiums présentement qui travaillent à nous déposer un projet financier. On a retardé la date de quelques semaines pour leur donner le temps de faire bien leur devoir. La date est le 2 novembre. Donc, le 2 novembre, on va recevoir leur proposition financière. Mais moi, ce que je leur ai dit, c'est, et c'est l'analyse qu'on fait à la fois à l'interne et avec des experts indépendants, les budgets de l'État, je fais référence au gouvernement du Québec et du Canada, mais aussi ceux de la ville de Québec, ne sont pas infinis. Alors, on peut pas utiliser comme prétexte que le contexte fait en sorte que ça coûtera n'importe comment. Ils en ont besoin, parce qu'on en a fondamentalement besoin, donc ils vont payer. Ben non, j'ai des petites nouvelles pour eux autres. Ça sera pas un bar ouvert. Alors, on travaille des alternatives. Moi, je souhaite travailler avec ces consortiums-là. On a des bons consortiums qui sont présents. Maintenant, le prix doit être au rendez-vous.
Est-ce qu'il y a un prix limite? Autrement dit, là, vous dites pas un bar ouvert, on comprend. Là.
Ben oui, il y a un prix limite. Ben oui.
Puis c'est quoi le prix limite?
Ben je vais vous donner deux raisons pourquoi je vous le dirai pas. Je sais pas pourquoi je vais vous le cacher, mais non, je vais vous expliquer. Si je vous dis le prix limite, prenons par exemple, je vous dis un chiffre complètement fictif, là, puis parlons pas du tramway, parce que à chaque fois que je dis un chiffre, les gens pensent que je viens de donner une information. Là. Mais vous souhaitez construire chez vous quelque chose, puis vous dites à l'entrepreneur qui vient soumissionner, moi, je suis capable de mettre 100 000 $. Mais je vous gage que la facture va être de 100 000 $. Alors, si je vous donne un prix limite aujourd'hui, les consortiums qui écoutent vont dire « OK, il est capable de se rendre jusque-là, on va le pousser un peu, on va y en donner un peu plus. » Alors, dans ma négociation, et ça, c'est, je pense, un problème pour l'argent de nos contribuables qu'on veut bien gérer, on se retrouve à perdre un pouvoir de négo. Si je donne un prix minimum, si je dis « ben nous autres, on va y aller très serré, puis on peut pas mettre plus que ça », quand les consortiums vont dire « ben c'est pas réaliste, puis voici pourquoi », puis je vais dire « ben finalement, le prix va coûter plus cher », je vais me faire fusiller sur la place publique, parce qu'on va me dire « ah ben t'avais du temps, puis là, ça coûte plus cher ». Alors, on est mal pris, peu importe ce qu'on fait, donc ça fait partie de la négociation. Tous ces éléments-là vont être divulgués après de façon très limpide, comme on le fait pour le prix du matériel roulant, le contrat avec Alstom, mais en attendant, pour faire en sorte qu'on travaille le mieux possible et que ça coûte pas trop cher au gouvernement et aux citoyens, dans le fond, c'est le citoyen qui paye, bien, on travaille ça de façon très, très serrée.
Êtes-vous prêt à renoncer au tramway?
Non. Non. Quand Pierre Fitzgibbon dit il va falloir qu'on réduise de 50% le parc automobile du Québec, tout le monde est sorti, scandale, c'est l'enfer, Pierre Fitzgibbon veut nous contrôler, c'est pas ça qu'il a dit, là. Il a dit, si on veut atteindre nos objectifs de carboneutralité, il va falloir offrir aux citoyens des alternatives pour faire en sorte qu'on réduise le parc. Et c'est drôle, le Forum économique mondial est venu dire qu'il faudrait le réduire de 75%. Alors, c'est 25% de plus que ce que Fitzgibbon avait dit. Alors, si comme Québécois, on veut que des gens qui habitent Repentigny, qui habitent Roberval, qui habitent le nord de Montréal aient des options pour se déplacer sur bas carbone, ben moi, je rêve qu'on ait un gouvernement du Québec qui dise, ben voici dans les 15-20 prochaines années, les 100, 150 milliards qu'on va investir à Laval, à Sherbrooke, dans le REM de l'Est, à Québec, puis pas juste dans la phase 1, dans la phase 2, puis ce qu'on va faire en sorte d'offrir à nos citoyens des options. Non pas de leur dire, on va vous imposer de prendre le transport collectif, moi je crois pas à ça. Mais présentement, force est d'admettre qu'il y a plein de citoyens au Québec que c'est pas rentable de prendre le transport collectif, que c'est pas rentable de prendre le vélo. Et le débat, là, faut bien l'entendre. C'est pas de dire, prends le transport collectif, sinon t'es un mauvais citoyen, parce que si tu prends ta voiture, t'es pas bon. Non, ça n'a pas rapport. Quelqu'un qui prend sa voiture, là, c'est pas un mauvais citoyen. Mais si on lui offre des options, puis qu'une journée par semaine, ne serait-ce qu'un matin semaine, il trouve une autre façon parce qu'il n'y a pas les enfants ou parce que c'est plus facile pour lui ce matin-là ou parce qu'il fait beau, puis il prend le vélo, il prend la marche ou il prend le transport collectif, on vient tous de gagner. C'est à ça qu'on doit aspirer comme communauté. Moi, je rêve d'un premier ministre qui nous propose ça. Là. Je rêve de cette vision qu'on vient dire, voici ce qu'on va viser 2040 partout au Québec, on va offrir des options aux citoyens. Pour lui que les citoyens se sentent imposer quelque chose, on va leur dire, essaye le don, tu vas voir, ça peut être intéressant.
Vous trouvez que François Legault manque d'ambition?
Je trouve que non, puis c'est, non, je pense pas à François Legault, je pense au gouvernement, je pense à nous. Je
ben
pense
c'est le premier ministre en passant là, donc.
Oui, mais c'est je rêve d'un Québec qui arrête de faire ce débat où si tu prends l'auto, t'es pas bon. Si t'es un camionneur, t'es pas bon. Puis si t'es un marcheur, là, t'es bon. C'est pas ça la vie dorénavant. La vie, c'est des gens qui prennent parfois la marche, parfois le vélo, parfois le transport collectif, leur auto de temps en temps. Puis ça en fait pas des mauvais citoyens. Mais présentement, au Québec, on n'a pas les options. On peut pas offrir aux gens de prendre le transport collectif ou même les pistes cyclables qu'il faut parce qu'on se sent pas en sécurité, parce que ça arrive pas chez nous. Alors, je rêve d'un Québec ambitieux, d'un Québec qui dit voici d'ici 2040 ce qu'on va réaliser. Et savez-vous qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous aider. Parce qu'on va dire au monde entier, on va mettre 100 milliards, 150 milliards en transport collectif. On va faire ça à Laval, on va faire ça à Sherbrooke, on va faire ça à Drummondville. Et ça va inviter des entreprises à venir s'installer ici. Ça va créer de la concurrence. On va réduire les prix.
Mais à Montréal, je vous donne l'exemple que je connais là, de transport collectif. Là, il n'est pas normal que quelqu'un qui part du centre de la ville pour se diriger, par exemple, vers le centre-ville, là, le bas de la ville, là, si on veut, là, que oui. Ça prenne 40 minutes en transport collectif puis que le transport est disponible une fois à l'heure. Je parle par autobus. Ben,
ça vous donne-tu le goût de le prendre?
Pas en tout.
Ça vous donne-tu le goût de prendre le train quand pour voyager de Québec à Montréal, ça vous prend 3h30? Alors que la technologie permettrait de le faire en 1h15 et que votre voiture vous permet de le faire en 2h30, 2h45, on peut-tu blâmer les gens de dire un scandale, vous prenez votre voiture? Ben moi aussi, je la prendrais ma voiture à leur place. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de TGV, parce qu'on n'a pas de train qui permette de se déplacer sub en carbone et d'accélérer les déplacements alors que la technologie le permet. On est en train de rêver, là, ça existe ailleurs.
Sur un autre front, le dossier de l'itinérance. Vous avez pointé du doigt le gouvernement là en disant qu'il y a eu plusieurs démarches. Votre prédécesseur, M. Labeaume, avait aussi fait des démarches en disant « ça n'a pas d'allure la responsabilité qu'on impose aux villes pour gérer les cas d'itinérance quand c'est un amalgame, là, on le sait, de problèmes de psychose, de santé mentale. » Bon, bref, M. Carman, semble-t-il, a été vexé. Qu'est-ce que vous voulez dire, puis vous attendez à quoi de Québec?
On a des discussions avec le bureau de M. Carman, puis j'ai senti l'ouverture dans les dernières heures, les derniers jours. Fait que j'ai confiance qu'on puisse arriver à des solutions. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de solutions? On parle d'une volonté politique. On parlait de transport collectif, là, puis d'offrir aux citoyens des options pour leur laisser des choix, mais leur des options intéressantes. Mais c'est la même affaire en matière d'itinérance. Ça commence par une volonté politique de politiciens qui sont capables de dire la situation est intenable, elle est inacceptable, à la fois pour les gens qui souffrent, les itinérants au premier chef, mais aussi leurs familles, les proches. Alors, on regarde ce qui se fait ailleurs. On a un plan d'action au Québec. Là. Comment on peut le bonifier pour faire en sorte qu'on ait de l'ambition? Qu'on ait de l'ambition au Québec pour dire on va se donner des années, mais on va réduire l'itinérance à zéro. Première des choses. Pour le faire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Avoir des statistiques. Les dernières statistiques en itinérance datent de 5 ans. Monsieur Arcand, on a fait un décompte l'année passée. Pas la Ville de Québec. Là. Le Québec a fait un décompte. 10 mois plus tard, on attend encore les chiffres. Parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a quelqu'un qui déplace une boule par jour dans son boulier. On n'est pas capable d'arriver avec des chiffres. Il y a des pays dans le monde qui nous donnent des chiffres, qui se donnent des chiffres toutes les années pour voir est-ce que les actions qu'on pose réduisent ou non l'itinérance. M. Carman pose des gestes. Quand M. Carman dit « j'ai posé des actions, j'ai mis de l'argent à tel endroit », il a raison de dire ça. Cependant, moi, ce que je dis à M. Carman, c'est qu'on veut qu'on en fasse plus, pas parce que vous en faites pas, parce qu'on veut des résultats. Alors moi, je veux pas qu'on se dise on a fait des choses. Je veux qu'on se dise comme politicien, voici les résultats auxquels on s'attend, on a de la volonté politique, et voici ce qu'on va mesurer, qu'on va mesurer annuellement pour se dire est-ce qu'on arrive collectivement à livrer des résultats.
Mais parce que
présentement, j'ai l'impression que non.
OK, mais je regarde ce qui se passe à San Francisco, qui est une ville merveilleuse sur le plan de l'architecture et des tous les qualificatifs qu'on peut y donner. C'est en pente glissante, descendante, sur la question de l'itinérance, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, les quartiers sont envahis. Quand vous dites que le matin, les employés municipaux passent la hausse pour nettoyer l'endroit parce que c'est souillé, il y a toujours eu des itinérants dans les villes. mais là, ça atteint des sommets. Comment vous faites pour éviter ça à Montréal et à Québec? Puis on l'a vu avec Ottawa, là, puis les problèmes de consommation de drogue dans le reportage de Radio-Canada. C'est quoi la clé pour pas se rendre là?
Bien, d'abord, la clé, c'est de faire en sorte que les itinérants qui sont déjà là, on puisse leur donner accès à des logements supervisés avec des spécialistes, avec des gens des organismes communautaires, avec des intervenants. Ça va prendre des mois, là. C'est pas vrai que quelqu'un est désaffilié demain matin, si on lui dit un logement, il va s'en aller vers ça puis il va retrouver le chemin de l'autonomie, là. Quand on parle d'une désaffiliation importante pendant des mois ou des années, ça prend du temps. Mais dans le monde où ça a été fait, ça fonctionne. Il s'agit pas juste de faire ça. Il faut avoir multiples stratégies. Mais présentement, on regarde les villes où ça fonctionne. Elles travaillent différemment de ce que nous on fait ou elles en font plus que ce que nous on fait. Et on regarde beaucoup de villes, et vous nommez San Francisco, on pourrait nommer Vancouver, on pourrait nommer d'autres villes américaines, elles vont à contrario de cette tendance-là, parce que si on ne fait rien en quantité suffisante, si on n'a pas d'ambition, si on ne mesure pas ce qu'on fait, si on n'est pas capable d'avoir de l'imputabilité, mais ça va dans le sens contraire, parce que la tendance, elle est forte, parce que oui, vous avez raison, la question des drogues, les opioïdes, la question de la santé mentale, la post-pandémie, les enjeux de logement qui font que ça propulse des gens à la rue. Alors nécessairement, on parle d'intervention, là, si on veut parler de prévention, il va falloir aussi parler de santé mentale, il va falloir aussi parler de logement, d'accès à des logements qu'il va falloir construire pour que les gens soient pas mis dehors parce qu'ils sont plus capables de payer leur logement et se retrouvent à la rue dans un cercle complètement vicieux. Mais vous savez ce qui me rassure? L'état actuel n'est pas rassurant. Là. Le regard que vous portez, il est tout à fait juste sur Montréal, sur Québec, sur San Francisco, sur d'autres villes. Mais si on se compare à des villes dans le monde, il y a des villes qui ont une tendance complètement inverse. Pourquoi qu'on les copierait pas? Pourquoi qu'on n'apprendrait pas de ces villes-là? Qu'on ne dirait pas, nous autres, si on est capable de renverser la tendance? Maintenant, ça va prendre des sous. Il va falloir accompagner les maires et mairesses parce que présentement, les Valérie Plante de ce monde, les Serge Bergeron à Robertval, les Xavier-Antoine Lalanne, les Julie Bourdon à Granby, là où les Frances Bédé à Gatineau, ils ont l'impression des fois là, qu'ils se sentent tout seuls au combat. Ben, si on travaille ensemble, il n'y a rien comme Québécois qu'on n'est pas capable d'arriver, mais ça prend de la vision, il faut se donner des statistiques, il faut être capable de mettre les ressources nécessaires, mais surtout viser des objectifs ambitieux.
Monsieur Marchand, pardon, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, M. Arquin.
Au revoir. Bruno Marchand est le maire de la ville de Québec. Jean-François Lépine est de retour avec nous ce matin. Bonjour, Jean-François.
Bonjour, Paul.
Commencer par la Chine, parce qu'on le sait que le modèle économique chinois des dernières décennies, c'est une croissance soutenue incroyable. Or, depuis la pandémie, on le voit, là, l'économie chinoise ne va pas très bien. Et ce qu'il faut que les gens réalisent, c'est que si ça va mal en Chine, il y a des impacts considérables sur l'ensemble de la planète.
Oui, c'est la deuxième puissance économique de la planète. Donc, c'est sûr que si ça va mal, c'est un partenaire commercial extrêmement important. Et tout ça, on a commencé à voir des doutes du sérieux de l'affaire quand les Chinois ont annoncé, le gouvernement chinois a annoncé récemment qu'il ne publierait plus dorénavant les chiffres de chômage chez les jeunes. Alors on parle de chômage, de taux de chômage de plus de 20% chez les jeunes de 15 à 25 ans, donc une crise de l'emploi extrêmement importante. Mais d'autres données sont arrivées depuis ce temps-là. Par exemple, la grande société immobilière Evergrande, un des plus gros promoteurs immobiliers au monde, qui était en défaut de paiement depuis des mois, est revenu à la bourse de Hong Kong hier, ses actions ont baissé de 90%. La semaine dernière, c'est eu un autre grand promoteur, Country Garden, qui aussi s'est mis en défaut de paiement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis le début de cette croissance-là, il faut imaginer qu'il y a 40 ans, les 1,4 milliard de Chinois ne possédaient pas de propriété immobilière. C'était un régime communiste intégral. Pour soutenir le développement et pour le stimuler artificiellement, la Chine a encouragé par toutes sortes de façons la construction, construction, construction à outrance. Il faut imaginer qu'une famille chinoise qui achète un premier appartement sur papier en Chine, elle le paye comptant. C'est pas comme ici.
Il n'y a pas d'hypothèque.
Il n'y a pas d'hypothèque et tout ça. Donc, elle le paye comptant sur plan. Le problème, c'est que les grands développeurs immobiliers ont étendu leur crédit. C'est presque un système de Ponzi à l'échelle de la Chine. On prend la contribution de cette famille-là pour bâtir le contrat précédent. Donc, il y a une menace là, que des milliers, des centaines de milliers de propriétaires chinois qui ont mis toutes leurs économies, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Chine, dans le secteur domiciliaire, perdent tout ça. Ça voudrait dire, il faut imaginer là, les protestations que les Chinois ont fait contre la politique zéro COVID du gouvernement. Ben, ça pourrait se produire dans le secteur immobilier. Sans compter, d'abord, le gouvernement chinois, sur le plan public, La Chine est extrêmement endettée. Si on consolide la dette publique, c'est 300% du PIB. En comparaison au Canada, c'est à peu près 110%. Donc, c'est un pays extrêmement endetté. C'est sûr qu'il peut produire de l'argent, mais c'est un problème très important. Puis surtout, ce qui est arrivé, je parlais de la politique zéro COVID. Depuis la COVID, l'économie chinoise, à partir de 2022, n'a jamais récupéré le rythme de croissance qu'elle avait avant. La production industrielle baisse. La consommation interne baisse, même si la Chine connaît une baisse de l'indice des prix à la consommation. On parle d'une crise qui est tellement forte qu'elle pourrait se comparer à la crise qu'a vécu le Japon dans les années 90. Une sorte de déflation qui ralentit l'économie et qui fait en sorte que l'économie vraiment est en crise majeure. À l'époque, quand le Japon avait connu cette crise-là, les Japonais avaient quand même un niveau de vie qui était à peu près 60% équivalent à celui des Américains. Les Chinois, en moyenne aujourd'hui, gagnent à peu près ou ont un niveau de vie de 20% par rapport aux Américains. Donc, le Chinois moyen n'a pas la force de supporter cette situation économique-là. Donc, c'est toute la remise en question. Le magazine The Economist dit « seize failing model ». Si, c'est le président Xi. Son modèle est-il en train de crouler? Et ce qui est remis en question beaucoup, c'est justement le contrôle que le président Xi Jinping a voulu faire aussi sur l'économie. C'est un obsédé de contrôle, de sécurité intérieure, de censure de l'opinion publique. Mais on dit, il est en train de faire ça aussi dans l'économie chinoise. Il est en train de bloquer le secteur privé chinois, qui est 70% de l'économie, et qui est le vrai secteur qui, lui, crée de l'emploi en Chine. Donc, ce serait vraiment une remise en question qui est à voir. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça va très mal pour l'économie chinoise. Donc, les conséquences possibles pour nous.
Tu rentres d'Égypte quelques heures à peine et l'Égypte qui a été acceptée au sein du club des pays qui est en plus forte croissance, on a vu dans le monde, le BRICS.
Le fameux BRICS.
Bon, alors depuis 10 ans, le pays dirigé par des militaires, il y a eu coup d'État, on a renversé le gouvernement islamiste. Il y a eu évidemment le printemps arabe aussi qui est venu, on dit, changer la donne. Comment se porte le modèle là-bas, puis comment va l'Égypte de façon générale?
Ben, ça a un lien avec ce qu'on vient de dire, c'est que les Égyptiens, c'est une dictature militaire. Les militaires ont failli perdre le contrôle quand les islamistes ont gagné après le printemps arabe. Ils ont repris le pouvoir et ils ont compris que s'ils voulaient maintenir le système autoritaire qu'ils ont. Un peu comme les Chinois. Il y a un échange que tu fais avec la population. Tu dis, moi, je te garantis un progrès économique. En échange de ça, tu m'acceptes. Hein? Tu acceptes de limiter ton droit de parole, etc., etc. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu un développement fulgurant depuis au moins 10 ans, parce que le président Al-Sisi a fêté ses 10 ans au pouvoir au mois de juin dernier. Un développement fondé exactement comme la Chine, sur le développement des infrastructures, développement domiciliaire, développement immobilier. Le gouvernement est en train de bâtir une nouvelle capitale en plein milieu du désert, entre la ville de Suez et la ville du Caire. La ville du Caire, là, Paul, c'est un immense chantier où on bâtit des banlieues. C'est une ville qui va grandir autour, qui va devenir une ville de 20 millions d'habitants avec tous ces développements-là. Le problème, c'est que pour faire ça, on emprunte. On a emprunté aux pays du Golfe, on emprunte à la Chine, entre autres, parce que la Chine est là comme méga constructeur, mais la Chine ne fait rien gratuitement dans le monde. La Chine prête et c'est tellement devenu important le taux d'endettement en Égypte du gouvernement égyptien que là, le gouvernement a annoncé qu'il était obligé de renoncer à certains projets d'infrastructure que les Chinois devaient faire. Donc, c'est un problème extrêmement grave parce que l'endettement a provoqué la chute de la livre, donc de la monnaie égyptienne, qui vaut 2 fois moins qu'elle valait il y a quelques mois à peine face, par exemple, à la devise américaine, ce qui fait que l'Égypte n'importe plus parce qu'elle n'a pas les devises pour payer. Tout ça parce que aussi, à cause de la guerre en Ukraine, on le sait, le prix des céréales a monté. L'Égypte dépend à 50% de son alimentation, dépend des importations. Et en Égypte, comme c'est un pays où la population est extrêmement pauvre encore aujourd'hui, le gouvernement subventionne les céréales, l'huile, etc., etc. Ça fait que le gouvernement est devenu presque coincé dans tout ça. Donc, il y a un défi. Parce qu'encore une fois, si le gouvernement n'apporte pas la prospérité qu'il voulait, on voit dans les banlieues qui sont en construction actuellement, en Égypte, le même phénomène qu'en Chine, on construit trop. et beaucoup de gens s'inquiètent parce que ça va faire tomber la valeur de l'immobilier, parce que les gens ne sont plus au rendez-vous pour acheter, parce que le pays est en difficulté financière. Donc, c'est un défi.
Est-ce que ça menace la dictature? Est-ce que ça peut amener à déstabiliser le gouvernement?
Oui, parce que les Égyptiens l'ont prouvé au printemps.
Ils peuvent le faire.
Durant le printemps arabe, ils sont capables. Donc, il y a une fragilité sociale qui existe à cause de l'insécurité économique et qui est préoccupante pour un pays qui est une sorte de modèle en Afrique, parce que c'est quand même un pays qui est développé par rapport à beaucoup d'autres pays africains et une sorte de leader en Afrique.
Un dernier sujet intéressant,
oui.
Sur les internautes chinois qui demandent le retour dans leur pays des trésors qui se trouvent au British Museum. Puis on a vu d'autres peuples le faire, là, les
Tout
Grecs, les pays oui. africains, en disant ce sont nos œuvres d'art, oui. ça nous appartient,
oui.
puis on veut retrouver ces pièces de collection.
Et pourquoi ça a recommencé cette histoire-là? Parce que la semaine dernière, le British Museum a avoué qu'ils avaient perdu des quantités importantes d'œuvres de l'Antiquité romaine et grecque de grande valeur. Et il y a un employé qui a été renvoyé, il y a une enquête qui est en cours. Le British Museum avoue qu'il ne sait pas quelle est la valeur exacte des objets parce qu'on ne sait pas combien sont disparus. Mais ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est effectivement cette crise de toutes ces grandes institutions muséales qui possèdent des richesses fabuleuses, acquises souvent dans toutes sortes de contextes coloniaux,
hein,
en ce qui a trait à l'Europe en particulier, et qui possèdent ça. Puis là, les gens trouvent des arguments, surtout dans la crise que connaît le British Museum actuellement. Il y a un journal de propagande en langue anglaise en Chine qui est très nationaliste, qui s'appelle le Global Times, une sorte d'organe du pouvoir, et qui là s'est lancé dans une campagne. Ça prouve qu'il faut que le British Museum nous renvoie sans frais tous nos trésors. Et les trésors sont fabuleux. La collection du British Museum, c'est à peu près 8 millions d'objets là, qui vont des momies aux sarcophages, aux frises du Parthénon, etc., etc., des statues fantastiques, des sculptures fantastiques. 8 millions d'objets. Et là-dessus, le musée ne peut en montrer que 1% à la fois. Donc, on imagine que tout ça est gardé dans des salles, voûtes, secrète, etc. La gestion de tout ça, c'est un problème invraisemblable. Et c'est pas que le British Museum, on a le même problème, par exemple, au Royal Ontario Museum à Toronto, où il y a des collections d'artefacts et d'objets de l'histoire chinoise qui sont absolument fabuleux. Entre autres, il y a un évêque anglican qui est décédé dans les années 60 et qui s'appelait William Charles White, qui a donné sa collection d'objets. Les Chinois ont fait l'évaluation de ça, disent que d'abord tout ça a été volé. Lui disait, quand il a cédé ces œuvres-là au musée à Toronto, qu'il avait amassé tout ça dans les années 30, 40, au moment où la Chine est en guerre avec le Japon et tout ça, pour protéger ces œuvres-là, puis il les a données au musée. Mais les Chinois disent, au musée à Toronto aussi, c'est à nous, ça a été pris dans des circonstances qui n'étaient pas correctes. On veut avoir ces choses-là. Donc, c'est un enjeu intéressant quand on pense à tous ces trésors.
Jean-François, merci beaucoup. Bon retour.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.